Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Passez une excellente journée à l'écoute de Radio Classique. Il est exactement 8h. Voici les titres de l'actualité.
8h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Bernard Poirette.
Le Covid-19, bientôt reconnu comme maladie professionnelle, ce sera automatique pour les soignants, un peu plus compliqué pour tous les autres professionnels. Après la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne appelle ses ressortissants à éviter certaines régions espagnoles, en raison, bien sûr, d'une hausse des cas de Covid. Madrid s'agace, pour le moins. Et puis le pèlerinage à la Mecque, il commence aujourd'hui même sur un format restreint, mesures sanitaires très strictes et des conséquences économiques majeures.
Radio Classique.
C'était une promesse du ministre de la Santé, Monsieur Véran. Le Covid-19 sera donc bel et bien reconnu comme maladie professionnelle.
Le décret doit être publié dans la semaine. Reconnaissance systématique pour les soignants qui ont été touchés. Pour les autres travailleurs, les éboueurs ou les caissières par exemple, ça s'annonce plus compliqué, ce qui agace certains responsables associatifs. Rémi Pfister.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'avait pourtant promis, la reconnaissance automatique de la maladie professionnelle pour tous les soignants atteints du Covid-19. Pourtant, l'ébauche du texte montre un net recul, selon Alain Bobbio, président de l'Andeva, une association qui défend les droits des victimes de crises sanitaires.
Seules sont prises en compte les séquelles respiratoires graves des personnes qui auront été intubées, mais on sait que le virus provoque des séquelles neurologiques, des séquelles rénales, des séquelles psychologiques qui peuvent être importantes.
Quant aux non-soignants, les caissières, les éboueurs ou encore les taxis, pour bénéficier d'une rente, à eux de prouver qu'ils ont eu le Covid-19 sur leur lieu de travail. Mission impossible, dénonce Alain Bobbio.
Pour ces gens-là, ça sera un parcours du combattant à coup sûr. C'est la charge de la preuve qui leur incombera de prouver que c'est bien au travail et pas ailleurs. C'est très décevant. On a d'un côté des discours, le Ségur, etc. Et puis de l'autre, on a la mesquinerie. Il y a y compris des gens qui sont morts, dont les familles vont se retrouver avec des difficultés financières considérables. Tout ça, c'est une injustice monstrueuse.
Les syndicats et les associations souhaitent la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du coronavirus. L'idée est de permettre le versement d'une rente plus équitable et plus étendue et de mettre au même régime les soignants et les non-soignants.
Le Covid en tant que maladie professionnelle, qu'en pense le médecin Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF? Je vous le rappelle qu'il sera notre invité dans moins de 10 minutes.
Appel à la vigilance lancé par le préfet de Mayenne après la découverte de nouveaux foyers d'infection dans le département, dans des entreprises, mais aussi dans des structures médico-sociales. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits depuis le début de la semaine. À l'étranger, près de 1600 morts en 24 heures aux États-Unis. C'est un record depuis la mi-mai. Plus de 60 000 nouvelles contaminations ont été par ailleurs enregistrées dans le pays. Inquiétude également en Allemagne où les cas sont en nette hausse. L'épidémie se propage aujourd'hui très rapidement selon l'Institut allemand de santé publique. L'Allemagne imposera dès la semaine prochaine des tests pour les voyageurs de retour de zones classées à risque.
Par ailleurs, Berlin appelle ses ressortissants à éviter certaines régions d'Espagne.
Comme la Catalogne où les cas sont là aussi en hausse, l'Allemagne n'est pas le seul pays européen à prendre ses distances avec l'Espagne, des mesures qui sont contestées à Madrid. Alexandra Sirgan.
Après la France, vendredi, qui déconseille à ses ressortissants de se rendre en Catalogne, l'Allemagne lui emboîte le pas. Berlin recommande d'éviter les voyages non essentiels vers plusieurs régions d'Espagne. Quant à la Grande-Bretagne, elle soumet désormais ses passagers en provenance du pays à une période d'isolement. De quoi agacer Madrid, qui se défend et affirme être un pays sûr. Jorge Ravelo est médecin à Barcelone. Il conteste cette avalanche de mesures.
Solo señalar algunos países o algunas regiones.
Montrer du doigt seulement quelques pays ou quelques régions, c'est hypocrite, notamment de la part de pays qui arrêtent de mettre en place des mesures de confinement, mais qui interdisent aux ressortissants de se rendre dans d'autres pays où il y aurait le Covid-19.
Pero al contrario, no dejas viajar a otro país donde hay COVID. Si vamos a tomar medidas,
si on prend des mesures aussi fortes, il faut prendre les mêmes partout.
Mais l'épidémie progresse toujours. La région de Madrid a renforcé le caractère obligatoire du masque et limite désormais les rassemblements à 10 personnes.
On l'apprend ce matin, les laboratoires français Sanofi et britannique GSK annoncent avoir conclu un accord avec le gouvernement britannique pour fournir à la Grande-Bretagne 60 millions de doses de leur vaccin potentiel contre le Covid-19.
Enfin, France, voilà des mots qui risquent de faire débat pour le moins, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec les esprits libres, les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne les possibles violences policières.
Ministre de l'Intérieur qui était auditionné hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, qui réfute le terme de violence policière. Écoutez-le.
Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée. Que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas la force pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a réagi par ailleurs à l'affaire des policiers accusés de racisme et de maltraitance au tribunal judiciaire de Paris. Si les faits sont avérés, il m'appartiendra de savoir pourquoi les sanctions n'ont pas encore été prises. Les faits avaient été signalés par un brigadier à sa hiérarchie en mars 2019. La police évacue depuis ce matin 6h à un camp de migrants à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. 1500 personnes s'y étaient installées ces dernières semaines. Et puis les hommages se multiplient après la mort hier de Gisèle Halimi à 93 ans, avocate, écrivaine, infatigable militante de la cause des femmes. Emmanuel Macron salue une républicaine passionnée qui fut une grande combattante de l'émancipation des femmes.
Les céréaliers français tirent la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Eh bien parce que la récolte de blé cette année est historiquement basse.
Seulement 29 millions de tonnes récoltées cet été, 26% de moins que l'an dernier, en cause les fortes pluies de l'automne puis la sécheresse du printemps, des mauvaises récoltes qui pourraient bien se multiplier dans les années à venir, selon Arthur Potier, consultant chez Agritel, cabinet de conseil sur les marchés agricoles.
On est vraiment sur une des trois plus petites récoltes, si vous voulez, de ces 25 dernières années, ce qui est catastrophique aujourd'hui. Avec le dérèglement climatique que nous avons, il y a de plus en plus d'anomalies météorologiques. On parle de canicule, on parle d'excès hydrique, on parle de sécheresse. Et tous ces éléments-là rendent le métier d'agriculteur de plus en plus compliqué. Gérer la météo, on n'y arrivera pas. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est donner une chance et accélérer la recherche variétale. Essayer de prendre les meilleures caractéristiques des différentes variétés pour que, en Europe, on soit capable de faire des variétés qui soient plus résistante à la sécheresse, à différentes maladies. Donc vraiment, la recherche variétale semble être aujourd'hui une des solutions pour faire face à ce dérèglement climatique.
Arthur Portier avec Émilie Vallès pour Radio Classique.
Et nous terminons ce journal, le Baptiste Gabory, avec le coup d'envoi aujourd'hui même du célébrissime pèlerinage de la Mecque. Forcément, cette année très perturbée.
Seulement 10 000 pèlerins attendus dans la ville sainte, des nationaux ou des résidents étrangers d'Arabie Saoudite uniquement, contre 2,5 millions de fidèles habituellement. Pèlerinage en format restreint, avec des conséquences économiques majeures en France et en Arabie Saoudite. Stéphane Genest.
À cette période de l'année, Ben Abdellah Soufari, président de l'association France Hajj, en charge des voyages vers la Mecque, devrait crouler sous les demandes des fidèles pour le pèlerinage.
C'est une période assez mouvementée habituellement en termes de contacts.
Avec la limitation du nombre de pèlerins à la Mecque, il constate une perte économique pour les entreprises françaises.
L'ensemble du chiffre d'affaires à peu près du pèlerinage, c'est 130 millions d'euros. Il y a les transporteurs, donc les compagnies aériennes qui sont concernées. Bien sûr, les agences de voyage, les guides accompagnateurs, ils ne sont pas rassurés quant à leur avenir.
Même constat en Arabie Saoudite. Le pèlerinage rapporte chaque année près de 11 milliards d'euros. David Rigoleros est chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Ça implique effectivement de revoir complètement les perspectives budgétaires, avec l'idée de procéder à un emprunt de l'ordre de 60 milliards sur l'année, même si ça sera certainement insuffisant compte tenu de la hausse du budget qui est prévue de l'ordre de 12% et de la baisse de la croissance liée à l'impact causé par l'épidémie du Covid.
Il s'agit là d'un coup dur pour l'Arabie Saoudite. Le royaume souhaite en effet réorienter son économie vers le tourisme religieux afin de ne plus être dépendant du pétrole.
Enquête pour Radio Classique signée Stéphane Genest qui conclut ce journal de 8h. Merci beaucoup Baptiste Gabory. Il est 8h09 sur Radio Classique. À suivre, l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro et notre invité Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Je vous laisse deviner de quoi nous allons parler ensemble.